Merci d'écouter Radio Shalom Bourgogne, le 97.1 FM à Dijon et en région. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent via notre site internet. Aujourd'hui, cette émission Gardien de mon frère est consacrée à l'ouverture à Dijon du premier centre LGBT+ de Bourgogne-Franche-Comté. Le 27 mars 2026, Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, est venue inaugurer le centre LGBT+ de Dijon. C'est le premier centre de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un centre LGBT+ est un lieu d'accueil, d'écoute, de prévention et d'orientation ouverte à toutes les personnes concernées par les questions relatives à l'orientation sexuelle. Après des extraits de l'intervention de la ministre et du président du centre LGBT, vous entendrez notre interview du vice-président de l'association AIDE, Emmanuel Baudoignet. Une très bonne écoute et à bientôt sur le 97.1 Radio Shalom Bourgogne.
Pour commencer mon propos, et parce que je crois que c'est aussi l'un des principaux enjeux de la création de ce lieu, je tiens à affirmer devant vous qu'à travers ma voix, ce sont toutes les identités du territoire et au-delà qui s'expriment. Aujourd'hui, on est là pour vous, membres de la communauté LGBTI+. On est là pour ceux qui furent, ceux qui sont et ceux qui seront. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour que toi, qui te lèves le matin, perdu, éthéré dans le monde qui ne t'offre pas la liberté d'être. Car oui, la liberté, la société souhaite te l'offrir, mais elle a un prix. Ce prix invisible pour certains, et pourtant, qui coûte si cher pour toi. Alors quel est le prix de la liberté pour toi? Celui d'une histoire qui te précède, William Dorsey Swan, première à porter le terme drag queen en 1880, de celles et ceux réprimés, déportés, mutilés, gazés, de Vichy à Berlin, et malheureusement dans d'autres pays encore aujourd'hui. De Stonewall, ce bar où Marsha P. Johnson et nos Adèles se sont battus en 1969, pour portant ainsi la première Pride au monde, pour valoriser nos droits. De nos femmes qui ont battu le pavé à Paris en 1977, lors de la première Pride en France. De ceux qui sont morts du sida, où à travers la Pride, nous avons décidé d'y chanter, danser et célébrer ceux qui ne sont plus là. Parce que oui, nous ne sommes que vie. Et comme l'a dit Freddie Mercury, show must go on. Alors quel est le prix de la liberté pour toi? Celui d'une famille qui ne te comprend pas et qui te fera payer ta différence au lieu de te protéger car tu es trop masculine ou trop féminin. Et trop, ça le sera peut-être pour toi. Alors pour survivre, tu partiras. Alors quel est le prix de la liberté pour toi? Celui d'un parcours scolaire empreint de harcèlement, d'intimidation, de rejet par tes amis, voire par tes enseignants. Tu auras peut-être de la chance si un ou une enseignante formée aura compris que tes mauvaises notes, tes absences ne sont pas synonymes de défiance, mais bien de souffrance. Alors quel est le prix de la liberté pour toi? Celui d'un emploi où tes collègues, tes employeurs, ne te parlent pas, mais parlent. Ils parlent de leur famille, de leurs enfants, de leurs vacances. Oh, mais ils parlent aussi de toi. Toi différent, toi qui aimes simplement, toi qui es simplement. Alors quel est le prix de la liberté pour toi? Celui de voir des journalistes, écrivaines, parler de toi, sans toi, tout ça pour faire croire aux autres ce que tu n'es pas. Celui de galérer à trouver un toit pour te loger, t'abriter, te sentir en sécurité. Celui d'avoir accès aux soins, que tu sois né ici ou ailleurs, car à travers, tu n'as qu'un cœur identique au mien. Celui de vendre ton corps, ce corps qu'on ne t'a pas laissé aimer et qui aujourd'hui est en marqué. Alors quel est le prix de la liberté pour toi? Celui de marcher main dans la main, le bonheur au bout des doigts, en allant à nos soirées pailletées pour qu'à l'orée, tu sois agressé. Celui de partir en quête de justice, où on te parle de tes vêtements qui aguichent, alors qu'on n'en a rien à fiche. Alors pour fuir tous ces tourments, tu consommes illégalement, ce n'est pas un choix, c'est un poids. Un poids qui te leste dans une société qui te laisse, en t'exigeant qu'on fesse. Finalement, au lieu d'avoir un jugement, tu as subi le prix des jugeants. Le prix de la liberté pour toi, nous allons le rayer. Toi qui te caches, qu'on accueille, qu'on écoute. De Avallon à Mâcon, de Besançon à Belfort, de Nevers à Auxerre, jusqu'à Dijon. Car oui, ce centre LGBTQIA+, ne se limite pas à une ville, mais à un territoire. C'est la maison d'une région qui en verra naître d'autres. Nous sommes un sanctuaire, ton sanctuaire, où que tu habites, nous t'aiderons. Tu n'as pas à te cacher ici. Ici, ce doit être partout. Partout où tu marches et tu respires, partout où tu vis, car tu dois vivre et non pas survivre. Désormais, vous et moi, entendons-nous là sur un constat. Nous sommes ici pour ça, ces parcours de vie, ces territoires, ces personnes, que dans des discours naissent des actes, naissent un lieu. Soyons à la hauteur du combat, soyons à la hauteur de la promesse d'un pays. Liberté, égalité, fraternité, j'y ajouterai sororité, adelphité. Le centre BFC Dijon et les associations qui nous composent seront là pour relever les défis, alors on s'en saisit ensemble. Que ce soit à travers la mémoire qui jamais ne doit ploire, le sport et la culture qui par nature nous font fleurir et s'unir. Aux existences des invisibles, de nos travailleuses du sexe, des personnes vivant avec le VIH jusqu'aux personnes exilées, qu'on doit accompagner avec humanité. La défense de l'intégrité et de la dignité des personnes trans et intersexes, le soutien de tous ceux qui s'aiment, qu'importe qui ils aiment, bref, nos droits humains. Avec le soutien de la Fédération LGBTI+, et les acteurs de terrain, nous nous structurons avec force en créant un projet associatif clair pour répondre aux enjeux du plan national et peut-être, prochainement, construire avec notre CORAD lundi un projet d'un plan local. Les résultats sont possibles que si les pouvoirs publics nous soutiennent, nous reconnaissent. Travaillons à réconcilier la société pour que la Pride marche dans le cœur des villes et des villages, que les guet-apens LGBTI-phobes aient justice dans une ruelle jusqu'à un lac, que la fracture territoriale se résorbe et réconcilie notre société. Madame la ministre, cette prise de parole se conclut sur une actualité qui, depuis quelques mois, et surtout ces dernières semaines, nous marque. Je souhaite vous partager le poids de la vie d'un bénévole, notre réalité. Mercredi, à Selon-la-Chapelle, à quelques kilomètres de là, nous avons dit adieu à Loïc, qui, dans un parcours de vie douloureux, entre homophobie et isolement social, il nous avait contacté pour une permanence juridique. Il s'est suicidé. Saisi par des élèves et parents d'élèves en raison d'un harcèlement homophobe au collège, Antonin, 13 ans, s'est suicidé ce dimanche 8 mars. Trois personnes trans se sont suicidées en 2025 dans la région en raison de transphobie et des difficultés de parcours de transition. Deux personnes ont mis fin à leur jour consécutivement à des guet-apens homophobes. Enfin, c'est notre Maxime, 28 ans, cheminot au sud de Paris, bénévole au centre de Lyon et de Paris, qui a mis fin à ses jours en raison d'un harcèlement homophobe dans son travail à la SNCF depuis 3 ans sans soutien de sa direction. Si je cite ces noms, c'est pour vous nommer, c'est pour que soit nommé et entendu par notre République que vous représentez. Ces enfants qu'elle n'a pas pu protéger et qui nous ont quittés. Chaque semaine, sur notre bureau arrivent des drames. Je ne veux plus enterrer des personnes, des amis, des proches, pour ces raisons. L'absence de réponse adaptée, avec un soutien suffisant sur la santé mentale, doit être intégrée dans le plan national à venir. Le centre que vous inaugurez aujourd'hui est là pour endiguer le fléau de la haine, mais aussi les conséquences qu'elle entraîne sur ce territoire. Ce défi nécessite donc de travailler à des moyens que vous avez et de la compétence que nous avons, pour que Dijon devienne ensemble un bastion où la haine, qui trop longtemps s'est érigée en rempart, qui aujourd'hui doit échoir et y reste jusqu'à jamais disparaître. Ma dernière phrase est pour nos queers. Hier honteux et ombreux, aujourd'hui LGBTI est lumineux. Regarde à tes côtés, ta lumière est solaire. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Merci.
Bon, c'est pas simple de parler après ce très beau discours. Et merci d'être là. Je vais demander aux bénévoles peut-être de venir à nos côtés parce qu'ils ont été cités. Mais c'est eux qui tiennent cette maison. C'est eux qui vont permettre qu'elle soit ce refuge, ce sanctuaire, cet endroit où chacun se sent à sa place dans la société, dans la République. Évidemment, les salariés, les bénévoles, qui vont venir. On vous voit, que vous soyez les visages qui incarnaient ce lieu. C'était très important pour moi d'être là aujourd'hui, d'être à vos côtés. Je remercie les élus de la République qui sont là. Je remercie François Patria, sénateur, président de groupe au Sénat. Je remercie ceux qui représentent le conseil régional, le conseil départemental et la mairie. Et je crois que c'est aussi un beau symbole que dans une diversité politique que nous représentons, eh bien, nous soyons tous là, élus de la République, l'État, évidemment, qui est représenté. Et je remercie aussi la presse parce que je crois que c'est aussi important que dans ces moments-là, on puisse réaffirmer et faire entendre les messages qu'on veut passer. Ces messages, en vérité, ils sont finalement simples. C'est de considérer que aimer librement ne devrait jamais être un risque pour qui que ce soit. Être qui on est ne devrait jamais mettre en danger qui que ce soit. Et aujourd'hui, ça reste une difficulté, ça reste une souffrance, et ça reste dans trop d'endroits de notre pays, grande métropole comme commune rurale, hexagone comme outre-mer, eh bien un risque, quel que soit notre âge, quelle que soit notre identité, quelle que soit notre orientation. Et c'est pour cela que ces centres sont absolument essentiels, parce qu'ils sont des lieux qui permettent d'accueillir sans condition, qui permettent de se sentir chez soi. Plus que des centres, ce sont des maisons. Et ce sont des maisons parce que ça veut dire qu'on se sent enfin à sa place et à sa juste place. Alors, loin des fantasmes, parce que je sais qu'à chaque fois que malheureusement on inaugure un centre, on a ensuite un déferlement de haine qui peut exister, des fantasmes qui peuvent être véhiculés. Il n'y a pas de fantasmes dans les uns et les autres qui sont ici. Il y a juste des hommes et des femmes, des personnes qui s'engagent et qui réaffirment que face à la haine, nous ne céderons rien. Et nous ne céderons rien parce que c'est un droit pour chacun d'être qui on est et d'aimer qui on aime. Et je crois que c'est la moindre des choses que la République puisse le réaffirmer et puisse s'engager et soutenir celles qui le permettent. Et puis, c'est vrai qu'on s'inscrit dans un contexte, et merci de l'avoir appelé et d'avoir cité leur prénom, leur parcours, parce que ce n'est pas des statistiques, ce sont des vies. Ce sont des vies qui ont été brisées, qui ont été empêchées, ce sont des familles qui ont été brisées et des vies qui auraient dû pouvoir continuer. Et ça veut dire en effet que c'est un échec pour la République quand nous n'avons pas su accompagner au bon niveau, au bon endroit, au bon moment. Et c'est aussi pour cela que ces maisons doivent être connues, reconnues, pour que cet accompagnement soit garanti à chacune et à chacun. Quand je dis que l'homophobie ou la transphobie tue, ça ne sont pas des paroles en l'air. C'est que malheureusement, c'est le cas. C'est le cas parce que derrière les guet-apens homophobes et transphobes que nous avons eu à connaître ces derniers mois, il y a des personnes qui ont été délibérément piégées. Il faut avoir ça en tête, le guet-apens, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, ce n'est pas une rencontre qui aurait mal tourné, ce n'est pas d'ailleurs une mauvaise rencontre dans une ruelle, c'est quelqu'un qui a été délibérément ciblé. C'est un acte qui a donc été prémédité pour venir piéger une personne en jouant sur ce qu'il y a de plus important dans la société, la confiance. La confiance qu'on place dans l'autre et dans la capacité à pouvoir être ensemble et à se rencontrer, quoi qu'on en attende d'ailleurs derrière. Et donc, ce sont des personnes qui ensuite ont subi des violences, un déferlement de haine, un déferlement de coups, un déferlement de menaces et d'insultes, parce que ça s'accompagne toujours d'insultes. Et suite à ça, il y a la reconstruction physique, il y a la reconstruction mentale, et parfois il y a des reconstructions qui semblent tellement impossibles que certaines personnes ont décidé, je ne sais pas si d'ailleurs elles l'ont décidé, en tout cas elles n'ont pas vu d'autre issue que de mettre fin à leur jour. Donc c'est pour cela que nous avons souhaité nous engager, que nous sommes d'ailleurs le premier pays au monde à nous être engagés sur la lutte contre les guet-apens homophobes et transphobes avec les plateformes. Et c'est important aussi de souligner quand il y a une plateforme qui s'engage, on a beaucoup à dire et à dénoncer, et nous le faisons régulièrement sur la question des réseaux sociaux et de la prolifération de la haine. Ici, on a des plateformes qui ont accepté de s'engager très clairement parce que les plateformes doivent rester des lieux et des leviers de liberté. Elles ont permis à des milliers et des milliers de personnes à travers le monde d'avoir un espace qui leur paraissait sécurisé pour enfin avoir accès à des rencontres auxquelles elles n'auraient sans doute peut-être jamais eu accès sinon. Il faut que cela reste des lieux et des espaces de liberté et jamais des pièges qui se retournent contre les personnes elles-mêmes, qui mettent en danger leur vie, qui mettent en danger leur sécurité, leurs sentiments et leurs espoirs. Et c'est la raison pour laquelle on a signé une charte qui n'est pas un bout de papier, qui est des engagements très clairs qui ont été pris par les plateformes, notamment sur le lien avec les forces de l'ordre, le lien avec la justice, sur la conservation des données, sur la garantie qu'on a de pouvoir mieux protéger, mieux détecter en amont, sur la question des profils vérifiés, mais notamment sur le fait de bien dire et que chacun l'entende bien à ceux qui voudraient tendre des pièges demain, que toutes les données seront désormais
conserver. Et donc même quand on crée un faux profil et qu'ensuite on le supprime, une fois que le piège s'est refermé, bien ces données elles seront conservées et ces données elles pourront être utilisées dans le cadre d'une enquête judiciaire pour aller rechercher, aller traquer les auteurs et les agresseurs et les faire condamner par la justice pour bien démontrer qu'il n'y aura aucune impunité sur le sujet et donc aussi faire peur à celles et ceux qui doivent avoir peur, c'est-à-dire ceux qui tentent des pièges et pas ceux qui juste font confiance pour vivre tout simplement, aimer tout simplement et librement. Donc merci sincèrement à vous pour cet engagement. On avait pris l'engagement que ces centres puissent exister. Je suis très fière que ce soit donc le premier pour la région et pas le dernier, parce que évidemment on va continuer sur cet objectif d'avoir un centre par département, et je sais à quel point la fédération y œuvre et puis toutes les associations locales, parce qu'à chaque fois ça s'appuie sur un réseau et un tissu associatif de salariés mais aussi beaucoup de bénévoles qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, de leur temps et de leur engagement. Donc bravo à vous, merci pour l'engagement que vous y mettez, la sincérité que vous y mettez, et j'espère surtout que notre message sera entendu, parce qu'on aurait espéré qu'en 2026 on n'ait plus besoin d'affirmer ce type de message, mais comme il faut encore l'affirmer, eh bien, nous allons continuer à l'affirmer avec l'État, l'affirmer avec l'ensemble des élus de la République qui ici s'engagent, et l'affirmer en étant très clairement à vos côtés et mobilisés. Donc longue vie au centre, longue vie à l'amour surtout, et le fait de se faire confiance dans une société doit impérativement être rétabli. Si on peut plus avoir confiance, si on a peur à chaque rencontre, si on a peur à chaque coin de rue, si on se dit qu'on ne peut plus être qui on est, qu'on ne peut plus aimer librement, alors quelle société serons-nous ? Nous avons besoin d'être cette société de la confiance et de la liberté. Donc merci de vous y engager pour que cela puisse redevenir le cas et être le cas dans les rues de Dijon, mais bien au-delà évidemment. Donc bravo à vous et merci.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Radio Shalom. Je suis Emmanuel Baudoinier, je suis le président de région de Aide en Bourgogne depuis maintenant 7 ans et je suis le vice-président national. Donc là, on est sur un événement qui est assez important. Ça faisait plusieurs années qu'on essayait de monter un projet de centre à Dijon qui a échoué à plusieurs reprises. La première fois, c'était pour défaut de financement en 2018. Et donc, on est très content de cette ouverture.
Alors, rappelez-nous un petit peu le rôle d'Aide et le lien d'Aide avec ce projet.
Alors, Aide au niveau national, c'est évidemment la première association française et européenne de lutte contre le VIH-Sida. On a été fondée en 1984 par un bourguignon, il ne faut pas l'oublier, Daniel Defer y connaît. Et c'est vrai que ça a été un long combat, parce que en fait, des combats des années 70 pour les droits LGBT, en fait, très rapidement est arrivée l'épidémie de VIH-Sida en France. Et la France était un des pays les plus concernés par cette épidémie. Donc très rapidement, en fait, il y a eu vu que c'était essentiellement de la communauté gay qui était touchée, il y a eu ce rapprochement entre les combats des personnes LGBT et la lutte contre le VIH-Sida. Et donc c'est évidemment pour cette raison-là qu'encore aujourd'hui, on continue à prendre une place importante dans les centres LGBTQ+, puisque l'épidémie de VIH-Sida n'est malheureusement pas terminée.
Alors, la population en général, quand nous parlons avec nos auditeurs, pense que la question du sida est loin derrière nous, ou alors sont dans une vision polémique d'une autre nature. Mais qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui de la situation justement du VIH ?
Justement, grâce à des militants militantes dont beaucoup nous ont quittés, hein, qui se sont battus dans les années 80-90, aujourd'hui une personne séropositive a la même espérance de vie qu'une personne séronégative, tout comme elle ne transmet plus le VIH dès lors qu'elle est sous traitement. Et ça, on le doit à 20 ans, entre les années 84-2004, de combats de militants militantes dont beaucoup ont perdu la vie. Donc en fait, aujourd'hui en France, on a accès à un traitement. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est la stigmatisation. Donc ce qu'on appelle plus traditionnellement la sérophobie, la discrimination envers les personnes séropositives. Et ça, oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Évidemment, l'accès au traitement en France est une très bonne chose. L'accès à la prévention est une très bonne chose. Là aussi, on a eu de nombreuses avancées. N'oublions pas qu'il y a encore un peu plus de 30 ans, on était condamnés en tant qu'association parce qu'on distribuait des préservatifs dans les lycées. Aujourd'hui, ils sont pris en charge et remboursés et la prévention est maintenant obligatoire. Mais n'oublions pas que c'est très récent. L'EVARS, l'éducation à la vie affective et sexuelle telle qu'on la connaît, elle n'est en place que depuis la rentrée dernière. Donc il y a encore des combats, on en gagne, mais il y a encore des choses à faire.
C'est un autre sujet dont on aura l'occasion de reparler, EVARS, parce que c'est très très difficile à mettre en place, quelle que soit la nature de l'enseignement. Okay. Pour revenir sur la prévention, il était évoqué tout à l'heure dans vos échanges avec Madame la Ministre la question de la nécessité d'augmenter à nouveau la prévention, les messages, parce qu'une partie de la jeunesse n'a pas forcément une lucidité absolue sur cette question-là.
Alors c'est vrai qu'il y a eu cette donnée communiquée par Santé publique France qui a été communiquée sur l'augmentation très importante, significative ces 10 dernières années chez les personnes de moins de 25 ans. Aujourd'hui, les nouvelles contaminations chez les personnes de moins de 25 ans, elles représentent 15%. Et ce qui est inquiétant, c'est que en fait, ça augmente. Donc il faut qu'on accentue la prévention auprès des jeunes. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On peut encore aller plus loin, mais donc il y a les VARS, et ça sera avec plaisir d'en reparler. Il y a évidemment le remboursement des préservatifs pour les moins de 26 ans, le dépistage gratuit des IST qui a été généralisé dans les laboratoires. Mais il faut faire attention parce que cette statistique, elle cache de fortes inégalités. Et notamment, en fait, on n'est pas tous et toutes impactés de la même façon. Notamment chez les jeunes de moins de 25 ans, on va retrouver beaucoup d'hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes qui, en fait, en raison de l'exclusion, en raison de la discrimination, bah, en fait, vont probablement plus se contaminer parce que bah, quand on n'a pas de foyer, quand on est obligé d'arrêter ses études en plein milieu de scolarité parce que bah, on a été abandonné par sa famille, ses proches, évidemment, on augmente son risque de contamination. Et c'est pour ça que les sujets entre discrimination envers les personnes LGBT+, et la lutte contre le VIH-SIDA sont intimement liés.
Effectivement, si on prend l'histoire, c'est la communauté homosexuelle qui a été touchée et qui a mené un combat très très difficile d'ailleurs et très long. Mais il y a d'autres populations touchées par le VIH, notamment en France, notamment les populations féminines venues d'Afrique, où le sida fait encore des ravages actuellement et où les prises en charge ne sont pas au niveau évidemment des prises en charge en Europe. Est-ce que AIDE travaille autour de cette question, aide ces populations?
Tout à fait. Alors, on a deux sujets hein, très clairement sur les populations issues de l'immigration et notamment d'Afrique subsaharienne. Il y a les personnes qui vont être séropositives avant leur arrivée et en fait qui n'ont pas accès à un traitement dans leur pays. Et ça, dans notre devoir républicain français de solidarité, de principe de solidarité qui est constitutionnel, évidemment, on a une responsabilité de pouvoir les accompagner. Mais on a d'autres sujets, c'est aussi les personnes qui fuient leur pays à cause des guerres ou plus récemment, par exemple, l'exemple du Sénégal où l'homosexualité est maintenant condamnable à 10 ans d'emprisonnement. Évidemment, on va avoir des personnes qui vont arriver sur le territoire français. Les conditions d'accueil aujourd'hui des personnes migrantes, et je pense que les auditeurs auditrices de Radio Shalom en ont pleinement conscience en raison de leurs engagements dans la société, en fait, aujourd'hui, ces personnes-là sont très mal accueillies sur le territoire français. Donc on a des personnes qui sont très exclues complètement des politiques d'État, avec une volonté presque parfois étatique de durcir les règles. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on a des personnes qui sont séronégatives quand elles arrivent en France, qui ont eu des longs parcours de migration et qui la précarité va les entraîner dans d'autres activités. Je pense évidemment au travail du sexe, plus communément appelé la prostitution, qui en réalité, on va amener les personnes dans la précarité. Et c'est dans ces moments-là où le risque de contamination est le plus élevé, notamment chez les femmes migrantes issues d'Afrique subsaharienne.
Très bien. Alors, nous rappeler peut-être au niveau régional, quelles sont vos priorités pour cette année 2026?
Oui, donc pour l'année 2026, donc nous, AIDE, on est implanté place Émile Zola, au 9 place Émile Zola. Nos actions principales, on a beaucoup d'actions de dépistage au VIH, l'hépatite C, l'hépatite B et la syphilis. On a beaucoup de sensibilisation et évidemment l'accompagnement des personnes déjà séropositives. Parce qu'aujourd'hui, on parle des nouvelles contaminations. On a toujours des personnes de plus de 50 ans en Bourgogne-Franche-Comté qui se contaminent, mais surtout la population vivant avec le VIH vieillit. Ces personnes-là qui ont eu des molécules en fin des années 90 sur l'AZT par exemple, eh ben, en fait, n'ont pas le même vécu que nous hein, aujourd'hui, que même moi en tant que personne séropositive aujourd'hui, parce que tout simplement les traitements étaient plus durs. Et en fait, 30 ans de VIH, ou même parfois pour certaines personnes 40 ans, c'est compliqué. Donc on va avoir tout ce rôle d'accompagnement aussi de cette population vieillissante. Mais finalement, c'était la meilleure chose qu'on pouvait leur souhaiter à ces personnes-là de vieillir.
Très bien, je vous remercie. À bientôt.
Merci beaucoup aux auditeurs et auditrices de Radio Shalom et à Radio Shalom de m'avoir permis de prendre la parole. Très bonne journée.